Journée importante chez nos voisins du Sud. On passe au vote. Qui sera le prochain président ou qui sera la prochaine présidente des États-Unis? C'est une journée excitante pour ceux et celles qui suivent l'actualité politique, que ce soit ici au Québec, au Canada, à l'international et bien sûr aujourd'hui aux États-Unis. On va analyser la situation, la journée, les possibilités de résultats avec Farnel Morissette qui est en studio avec nous. Salut Farnel.
Salut, comment ça va?
Ça va très très bien. Je te relance la question.
Moi, ça
échelle
va.
De 1 à 10. C'est quoi ton niveau d'excitation aujourd'hui?
Ah, je suis excité, je dirais peut-être un, parce qu'il est encore tôt le matin, peut-être un 8-9, mais ça va monter vite.
C'est quand même un 8-9 à 7h47.
Là. Ouais, mais tu sais, je t'ai toujours précisé, je suis excité, mais je suis excité pas de la façon que quelqu'un qui regarde un match de hockey.
Faut pas le voir demain.
Moi, je suis excité de la façon qu'un météorologue regarde la formation, genre, d'un phénomène météorologique qui va avoir un impact planétaire.
Oh.
Parce que c'est essentiellement, c'est ça qui se passe. Là. C'est pas, bon, c'est sûr qu'il y a des partisans qui vont être bien excité d'un bord ou de l'autre, mais j'ai l'impression que de notre côté de la frontière, là, on devrait vraiment plus voir ça comme si y a peut-être un ouragan qui s'en vient, puis il faut vraiment être conscient de ce que ça va avoir comme impact chez nous.
Et peu importe le résultat, cet impact-là ou ces impacts-là, il faut se préparer à ça, parce que ce soit une victoire républicaine ou une victoire démocrate, il va avoir des impacts au Canada.
Il va avoir des impacts au Canada qui vont nous affecter. T'sais, on va peut-être pas le sentir immédiatement, mais après quelques mois, première année ou deux, c'est sûr que ça va changer la donne ici aussi.
J'ai croisé plusieurs politiciens en fin de semaine. Hier, j'étais à une conférence de presse où Martine Biron était là, ministre des Relations internationales. Puis elle disait, peu importe qui gagne entre Trump ou Harris, ça va être mauvais pour le Québec, le Canada. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Et là, je parle du point de vue économique.
Point de vue économique, t'sais, mauvais, c'est toujours une question de valeur, puis c'est une question de sa position. Le gagnant va faire des gagnants et des perdants au Canada aussi. Mais t'sais, là-dessus, généralement, une des choses qui a été quand même assez claire depuis le début de la présidence Biden, et on peut s'imaginer qu'une présidence hypothétique Harris va continuer ça, c'est que oui, il y a une montée de protectionnisme aux États-Unis, il y a une montée de protectionnisme à travers le monde aussi. Nous autres aussi, on en fait.
Oui,
faisons pas semblant. Mais l'administration Biden a été très claire. Quand Joe Biden lui-même est venu au Parlement à Ottawa pour faire un discours, il a dit que dans sa vision, qu'on peut imaginer est probablement très proche de la vision Harris, le Canada est intégré à l'intérieur des chaînes d'approvisionnement, des industries, des États-Unis. Alors, quand les démocrates parlent de protectionnisme, dans certaines industries au moins, peut-être pas tous, peut-être pas les matières premières où il y en a aux États-Unis, mais dans certaines industries, le Canada est exclu des mesures protectionnistes, le Canada est protégé. Alors, sous une administration démocrate, on peut s'imaginer que, point de vue économique, pour ces industries-là, l'automobile, la haute technologie, certaines industries de matières premières, ça risque d'aller un peu mieux parce qu'il va avoir plus d'intérêt à protéger notre accès au marché des États-Unis, ce qui a historiquement été très, très bon pour les industries canadiennes. C'est moins clair que les républicains continueraient dans cette direction-là. Généralement, la dernière administration Trump a été assez agressive à vouloir renégocier les ententes de libre-échange. On peut s'imaginer que ça va être la même chose encore.
Parce que, il faut se le dire, Farnel, la personne qui va payer, ben, c'est le citoyen. Ça va être nos poches, notre portefeuille. Si jamais on change cette situation économique qui existe entre le Canada et les États-Unis, à quelque part, c'est nous qui allons payer plus si on n'a pas une belle situation économique entre les deux pays.
Ben, les tarifs, ça fait payer tout le monde. Mais oui, qui va écoper du gros de ça? Ben, ça va être beaucoup les industries qui dépendent sur un accès facile à ce marché-là. Et puis ça, ben, c'est de notre côté de la frontière.
Est-ce qu'on a un pouvoir d'influence en termes économiques? T'sais, parce que Martine Biron hier me disait, bon, ben, on a acheté des gens au bureau de New York, on a acheté des gens au bureau de Washington, on va être à l'avant-plan, on veut savoir ce qui se trame, on va être en mesure de bien comprendre ça va être quoi les politiques, que ce soit d'Harris ou Trump. Est-ce qu'on a ce pouvoir d'influence-là ou on va tout simplement, là, puis là je prends l'expression québécoise, elle manger d'en face?
Ben, tu sais, j'aimerais bien pouvoir dire qu'on a un gros pouvoir d'influence. Mais écoutez, j'ai travaillé à New York pendant des années pour Wall Street. Là. Puis la réalité, c'est que pour eux, tu sais, pour le Canada, les États-Unis, c'est le plus gros partenaire économique. Point barre. Pour les États-Unis, le Canada, c'est pas si important que ça dans leurs affaires à eux. Alors, si on veut avoir une influence, si on veut parler de jeux, de coulisses ou de négociations politiques, c'est sûr que ça se fait, puis c'est sûr qu'il y a des façons de se faire valoir, mais on n'a pas le gros bout du bâton là-dessus, malheureusement. Puis ça, c'est une réalité qu'il faut juste l'accepter. On peut essayer, on peut négocier, on peut faire des pieds et des mains si on veut, mais en fin de compte, c'est la politique internationale qui joue, puis là-dedans, ben, on n'est pas un énorme joueur économique.
On sait qu'économiquement, ça va avoir des impacts, ce qui va se passer ce soir à l'extérieur de l'économie. L'impact le plus important sur nous, c'est sur quel aspect?
Je dirais celui qui va être probablement le plus facile à identifier immédiatement, puis on peut venir à d'autres après, là, mais c'est géopolitiquement aussi, la planète au complet va réagir à l'élection présidentielle des États-Unis parce que, ben, on a essentiellement une situation où il va y avoir soit les démocrates ou les républicains. Les démocrates qui ont un appui beaucoup plus solide à maintenir leurs appuis matériels, leurs appuis financiers aux guerres qui se font en Ukraine, au Moyen-Orient, tandis que ben, les républicains ont été très clairs qu'eux ont une position où ils veulent absolument réduire l'ampleur de ces guerres-là, voire carrément y mettre fin très rapidement. Puis on peut débattre si c'est une bonne chose ou si c'est juste de l'apaisement. Mais dans un objectif de s'assurer que ces guerres qui sont présentement, je veux dire, initialement, c'est des guerres locales, c'est en train de devenir des guerres régionales, tant au Moyen-Orient qu'en Ukraine, s'assurer que ça ne devient pas une guerre généralisée, ça, je pense que c'est quand même une position très forte des républicains. Et puis, si on vient dans une situation de guerre généralisée, là, je ne parle pas d'une guerre mondiale, mais d'une guerre généralisée, c'est pas mal certain que le Canada va être impliqué aussi. On ne peut pas s'en sortir.
Farnell, Trump aime se bomber le torse. Ça a bien de l'air qu'il aime danser aussi. On l'a vu beaucoup danser dans les dernières semaines, mais se bomber le torse. Il a déjà dit haut et fort que lui pouvait mettre fin à cette guerre-là entre l'Ukraine et la Russie avec un appel. C'est-tu juste Trump qui est Trump ou réellement il y a un fond de vérité là-dedans? Est-ce que Trump pourrait influencer le conflit qu'il y a et qui dure depuis longtemps maintenant entre l'Ukraine et la Russie?
Ben, littéralement, avec un appel, j'en doute. Mais est-ce qu'il peut avoir un impact énorme? Oui, c'est sûr. Le président des États-Unis a une énorme influence sur la politique étrangère des États-Unis, sur les forces militaires des États-Unis. Si Donald Trump devient président et décide « c'est fini notre appui à l'Ukraine », peut-être que les autres pays d'Europe, particulièrement les autres pays d'Europe de l'Est qui sont plutôt associés à l'Occident, vont peut-être vouloir essayer de maintenir leurs appuis à l'Ukraine pour des raisons beaucoup plus immédiates de géopolitique. Pour eux, là, pour eux, c'est leur voisin. Mais en tout cas, ça serait très difficile pour l'Ukraine de continuer sa résistance dans l'invasion russe sans l'appui des États-Unis. Et si le président tire son appui, ça va finir vite, j'ai l'impression.
Du côté de Donald Trump également, en termes de politique étrangère, politique internationale, il a parlé beaucoup, puis tantôt là, tu l'effleurais avec le Canada, faut que les gens atteignent les cibles de l'OTAN. Puis le Canada, on est en bas de ça. Est-ce qu'avec une Kamala Harris, ça serait pareil? T'sais, le Canada va-tu être forcé après cette élection-là de faire ses devoirs et surtout en matière d'investissement dans l'OTAN?
Oui, l'exigence du traité de l'OTAN que les pays dépensent 2% de leur PIB essentiellement en dépenses militaires, en armement, en préparation, le Canada ne l'atteint pas depuis très, très longtemps. On était à 1,2%. Je pense que là, on projette de se rendre à 1,6, 1,7, mais on est encore loin du 2%. Et l'administration Trump, dans le passé, a dit que ceux qui ne payent pas, ben, ce n'est pas garanti que les États-Unis viendraient les défendre, ce qui serait peut-être une violation du traité de l'OTAN. Mais bon, si un ne respecte pas l'entente, est-ce que l'autre ne peut pas respecter l'entente?
Ouais,
ça devient
exactement
compliqué. L'administration Biden n'a jamais ouvertement fait ce genre de commentaires-là. Peut-être que dans les coulisses, dans la diplomatie, ça se parle, mais il n'y a pas vraiment eu question de ça, puis il n'y a pas eu de question là-dessus dans la campagne Harris non plus. Alors, est-ce qu'une administration Trump forcerait le gouvernement canadien à dépenser plus d'argent dans l'armée? On peut s'imaginer que oui.
Farnell, est-ce que les résultats des élections d'aujourd'hui vont avoir un impact sur la relation culturelle qui existe entre le Canada et les États-Unis?
Certainement. Puis ça, je pense que quand on parle des impacts qui sont difficiles à identifier, ça, c'en est un énorme. Parce qu'on se dit souvent, les États-Unis, c'est les États-Unis, puis on n'est pas les États-Unis. Puis c'est vrai, on n'est pas les États-Unis. Mais l'énorme majorité des produits culturels qu'on consomme viennent des États-Unis. Ça, faut pas l'oublier, là. La plupart des films, la plupart des téléséries, même la majorité des nouvelles qu'on a tendance à écouter vient des États-Unis. Ça, c'est... Puis même ce qui est produit ici, les produits culturels, chez nous, souvent, sont faits dans un moule clairement sorti des États-Unis aussi. Alors, ce qui se passe aux États-Unis a une influence, qu'on pourrait dire par osmose quasiment, dans notre perception de qu'est-ce qui devrait être la culture politique, la culture citoyenne. Alors, si on commence à voir un autre 4 ans d'une politique dans le style très, disons, homme fort, populiste à la Trump, ben, c'est nécessairement ça que les électeurs canadiens vont commencer à être habitués à voir. C'est ça qu'on va commencer à s'attendre à voir. Ça veut aussi dire des impacts sur les questions sociales qui vont être décidées dans cette élection aussi. T'sais, moi, je, sans vouloir jouer le boogeyman de la question, on n'oublie pas que les États-Unis ont légalisé l'avortement 15 ans avant le Canada. Et puis à l'époque au Canada, on regardait ça, on disait bon, non, ça n'a pas de bon sens. Et puis maintenant, c'est une valeur profonde au Canada, mais en 15 ans, les valeurs sociales peuvent changer beaucoup, surtout si on a une énorme influence culturelle qui vient du Sud, qui normalise l'idée de limiter cet accès-là selon des encadrements sociaux, des fois même religieux.
Culture politique, là, tu m'allumes là-dessus. Une victoire de Trump, je vois un Poilievre peut-être prendre encore plus de galons ici au Canada dans sa façon de faire, sa façon de se comporter. À l'inverse, une victoire d'Harris, ça veut-tu dire que Trudeau saute parce que ça va avoir marché, tasser Biden pour Kamala Harris?
Hey, c'est une bonne question. Je pense que ça va mettre beaucoup de pression sur Trudeau, certainement, si ça fonctionne. Mais même là, l'impact n'est pas aussi rapide que ça. Ça prend un 5, 7, 10 ans avant qu'un gros changement culturel aux États-Unis se reflète au Canada, puis même encore plus, un peu plus de temps que ça pour que ça se reflète au Québec. Il y a quand même des différences importantes aussi. Je pense que Justin Trudeau n'est pas quelqu'un qui projette une image d'un homme très vieux, qui est peut-être un peu dépassé, qui n'est peut-être pas encore tout là.
Peut-être pas encore toutes ses capacités cognitives.
Non, c'est ça. T'sais, même si on regarde juste un snapshot des deux, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir dans un Justin Trudeau quelqu'un qui ressemble beaucoup plus à un Kamala Harris que quelqu'un qui ressemble à un Joe Biden.
Clairement.
Mais oui, il y a des stratèges politiques au Canada qui vont voir ce qui s'est passé aux États-Unis, puis ils vont se dire « Ah, ben tiens, changer de chef juste avant une élection, ça semble pas être une si mauvaise idée que ça. » Ça va se parler, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une relation un à un aussi facile à faire.
Farnell, on sait que les Américains sont passionnés par plein de choses, entre autres leur position politique. Ça pourrait brasser. Es-tu inquiet que ça brasse un petit peu? On a entendu parler peut-être du côté des supporters de Trump. C'est une victoire ou l'autre bord a triché? On veut peut-être surveiller les points de vote. On veut peut-être intimider. Toi, de ton bord, puis t'es habité aux États-Unis, es-tu inquiet que ça brasse un peu aujourd'hui, ce soir, demain?
Là-dessus, il y a deux façons que ça peut brasser. Il y a une façon que ça va brasser, je pense, c'est assez certain. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations qui peuvent avoir des débordements? Probablement. Mais des manifestations qui sont des débordements, je veux dire, c'est pas nouveau aux États-Unis, puis généralement, l'ordre constitutionnel est assez capable de survivre à ça. Le pire scénario possible, là, je veux pas alarmer les gens, là, je pense pas qu'il est probable, mais il est pas impossible non plus, c'est que les débordements et même l'incertitude sur qui a gagné l'élection persiste jusqu'après le 6 janvier. Parce que c'est le 6 janvier où il faut que, officiellement, il doit avoir un nouveau ou une nouvelle présidente. Sinon, l'ordre constitutionnel des États-Unis ne fonctionne plus. Et puis, si on arrive au 7 janvier et puis on n'a pas une réponse claire acceptée par presque tout le monde et tous les acteurs constitutionnels sur c'est qui, le ou la présidente, ben là, on commence à avoir des problèmes. Si les forces armées commencent à se diviser, par exemple, entre un qui dit « Ah, moi, je pense que c'est Trump qui a gagné », l'autre qui dit « Je pense que c'est Harris », ça pourrait virer très, très mal très vite. Mais là, encore une fois, je ne veux pas tomber dans l'alarmisme. Je ne pense pas que c'est un scénario probable, mais ce n'est pas entièrement impossible. Puis c'est fou à dire qu'on soit rendu là, que ce n'est pas inconcevable comme situation. Puis si c'est le genre de choses qui arrivent, j'espère que nous, on va se rappeler que c'est nos voisins, puis on n'est pas obligé de s'impliquer dans leur chicane.
On a vécu le 6 janvier, justement, 2021, plein de manifestants qui ont envahi la Maison-Blanche. Advenant le cas, puis je pense pas que ça arrive, là, une défaite claire ce soir d'un ou de l'autre, là. Mais advenant le cas qu'à soir, là, on sait que Kamala Harris a gagné, on a-tu un risque véritable que plein de manifestants s'en prennent au Pentagone puis à la Maison-Blanche?
Qu'il y ait des manifestants. Il va avoir des manifestations.
Mais sauf qu'ils fassent une invasion comme il avait fait.
Ben, je crois pas que ça va déborder autant que ça parce que contrairement au 6 janvier 2021, présentement, l'ordre constitutionnel est encore entre les mains d'une administration, d'un exécutif l'exécutif Biden. C'est-à-dire que c'est encore une administration démocrate qui contrôle, par exemple, qui va s'assurer de la sécurité à Washington. Washington, D.C. est essentiellement un protectorat quasiment du gouvernement fédéral. Ils ont un énorme contrôle direct là-dessus. En théorie, ça devrait pouvoir permettre un contrôle peut-être un peu plus aigu de ces manifestations-là, sauf que ça vient aussi avec le risque que les manifestants vont dire « Ben, c'est le gouvernement qui est plus légitime, qui a perdu, qui a triché, qui est en train de nous opprimer. » C'est toujours un double tranchant, il faut la toujours faire attention.
Là, là, on parle beaucoup de Trump-Harris. C'est ce qu'on surveille aujourd'hui, mais aux États-Unis, comment ça fonctionne? Il y a le Congrès, Chambre des représentants, Sénat. À quel point ça, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va le surveiller de près aussi. Puis à partir de quand on va être fixé sur à quel point le président, celui qui va prendre le pouvoir ce soir, que ce soit Harris ou Trump, va avoir du pouvoir? Parce qu'aux États-Unis, si t'as pas Congrès de ton bord, Chambre des représentants puis Sénat, t'as moins de pouvoir.
Ben, je suis super content que t'en parles parce qu'on a tendance à juste regarder la présidence, mais c'est vrai. T'sais, le cycle électoral aux États-Unis, c'est pas 4 ans, c'est 2 ans. Et la Chambre des représentants au complet se fait réélire aujourd'hui et un tiers du Sénat se fait réélire aujourd'hui aussi. Et la Chambre des représentants et le Sénat ensemble forment le Congrès et c'est le Congrès, en théorie, qui détient la part du lion du pouvoir constitutionnel aux États-Unis. Le président a beau vouloir faire bien des affaires, s'il n'y a pas le Congrès de son bord, ça va être vraiment, vraiment difficile pour lui de le faire ou pour elle de le faire. Alors, si on vient à une situation où on a un président, une présidente d'un parti, mais c'est un autre parti qui contrôle l'ensemble du Congrès, ça fait un contrepoids qui est, je veux dire, c'est quand même voulu dans l'ordre constitutionnel qu'il y ait des contrepoids entre les pouvoirs, mais ça limite aussi beaucoup la capacité de l'exécutif de faire avancer son plan. Alors, il va falloir regarder ces questions-là aussi. Je pense que probablement que demain matin, on va avoir une assez bonne idée de ça va être quoi le partage du pouvoir entre les deux partis au Congrès, même si on ne sait pas tout à fait c'est quoi le président. Puis ça va nécessairement soit faciliter ou tempérer le ou la prochaine président-présidente.
Fernel Morissette, est-ce que j'ai le droit de te demander tes prédictions de comment ça va se dérouler ce soir?
Moi, je ne fais plus de prédictions. Je vous dis pourquoi. Parce que en 2016, aujourd'hui en 2016, je suis parti, j'avais une réunion avec des collègues et j'ai dit haut et fort, fièrement, inquiétez-vous pas, toutes les prédictions sont claires, tous les sondages montrent que mathématiquement, c'est quasiment une certitude que Hillary Clinton va être présidente des États-Unis. Et le lendemain matin, c'était pas ça. Alors, je fais plus de prédictions et puis j'attends et je vais voir. Je laisse ça à ceux qui ont clairement plus de sagesse que moi.
Chose certaine, on t'écoute ce soir avec Jeff Fortin, avec Jacinthe Avarel, dès 20h, vous trois, pour suivre ce qui se passe du côté des élections américaines.
On va avoir un plaisir fou de le faire, puis c'est une élection historique, donc très heureux que Boulevard me donne l'opportunité de le faire ce soir.
Je suis très excité aussi.
T'as du gros bonbon, là. Ça va être le fun de vous écouter. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, vous le savez, si ce n'est pas déjà fait, ça vous prend ça absolument. Farnell Morissette sur toutes les plateformes. Et on l'écoute ce soir avec Jeff, avec Jacinthe Eve, dès 20h. Et ça finira quand ça finira? Farnell, merci pour ça.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Salut, bonne journée.